Bonjour, François Strossard et la belle équipe. Pour la récré de France Culture, à l'affiche, le joli dimanche de Jeanne, la lettre de vacances de Jean-Bernard Puy. Et moi aussi, j'ai fait du sport. Nathalie Sarraute et le ping-pong, Jacques Bertrand.
Il y a ce moment où il n'y a plus de balle, où il n'y a plus que deux personnes penchées qui passent d'un pied d'appui sur l'autre, qui s'éventent avec leur raquette. Puis la balle surgit comme d'un éventail d'illusionnistes. 14-18. C'était toujours ce moment-là, 14-18, où quand c'était moi qui avais 18, j'étais sûr de perdre.
Les histoires homophoniques de Dil Conseil et Nelly Kaplan, suivies d'une parenthèse en forme de morceau de choix, et puis Cassette de Molière cherche placement lucratif chez le banquier Hervé Le Tellier.
Nous avons en gestion patrimoniale les 5 sous de Monsieur Lavarède, qui s'élève aujourd'hui à presque 1,25€. Grâce à 60 années d'une gestion judicieuse et protectrice.
Et puis, nous refermerons ce numéro des Papous dans la tête avec la textée de Gérard Mordilla. Tout un programme à podcaster sur franceculture.fr pendant un an, à réécouter 1000 jours sur notre page où vous pouvez poster vos questions, remarques, renseignements, tout ce qui vous intéresse et nous concerne, rubrique commentaires. Le dimanche, à l'heure des papous et de l'apéro, c'est pastis pour certains et pastiche pour nous, avec la série des jolis dimanches. Ce jour qui divise le monde en deux, je hais les dimanches, j'adore les dimanches, c'est selon. Nous, le dimanche, on l'aime et on le fête en chanson. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique a cappella. Jeanne Carillon pour le joli dimanche façon Pierrot le Fou.
J'ai un penchant pour le dimanche, j'ai un penchant pour le dimanche, le quasi vide, le loin du plein, faire attention aux petits riens. Dis le dimanche, dis le dimanche, dis-moi chérie sur quoi tu planches.
Sur quoi je planche? Quelle importance! Tout le dimanche, c'est l'insouciance. Joli dimanche!
Je veux qu'on planche!
Moi, je me plancher sur tes hanches. Tu te déhanches!
Je me déhanche! Dansons ensemble tous les dimanches! À force de parler du dimanche, à force de parler du dimanche, j'ai un petit creux, j'ai un peu faim, je rêve d'un très grand festin. Dis ce dimanche, dis ce dimanche, dis-moi chérie, bah, qu'est-ce qu'on mange?
Ce que l'on mange, quelle importance! Je te mange des yeux tous les dimanches. Tu veux que je te mange?
Je veux qu'on mange!
Ma belle blanquette et sa sauce blanche. Et qu'on s'étanche.
Et qu'on s'étanche, trinquons en cœur à nos dimanches. Je me penche toujours sur le dimanche. Je me penche toujours sur le dimanche. C'est le jour divin pour s'épancher et s'empêcher de se dépêcher. Et le dimanche, oui le dimanche, dis-moi chérie sur quoi tu te penches.
Sur quoi je me penche? Quelle importance! Je suis fou de joie tous les dimanches. Je m'en paye une tranche.
Oui, une bonne tranche.
On se fend la poire tous les dimanches.
Oh, dis dimanche.
Manche.
Dimanche.
Manche, 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 manche.
Rions ensemble
tout
le dimanche.
Et dans le rôle de Jean-Paul Belmondo, c'était Patrice Minet. Lettre de vacances avec Jean-Bernard Puy et Dominique Muller. Ah, le bonheur de découvrir dans sa boîte aux lettres une lettre manuscrite, c'est rare. Coincée entre les pubs, les factures, les offres de petits boulots pour l'été, promener les chiens, tondre la pelouse, arroser les plantes vertes. Une vraie lettre, ça change la vie. On la relit le soir avant de s'endormir, on y répond. Alors si vous partez, donnez des nouvelles, partagez, quitte à rendre un peu jaloux, c'est pas grave. Seulement, on n'est pas tous à égalité face aux vacances. Alors, Jean-Bernard Pouy, vous vous rangez dans quelle catégorie ? Vous êtes parti ? Vous êtes resté ?
Je suis parti. Ouais. On m'a un peu forcé.
Ah,
enfin,
ah. Et donc on vous a j'écris poussé dehors.
À ma chère et tendre qui est restée, celle qui m'a forcé à partir. Ma chérie, certains la trouvent moche, certains la trouvent bête, mais moi je l'aime bien ma valise à roulettes. Certains ne la voient pas, s'y prennent les gambettes, mais moi je l'aime bien ma valise à roulettes. Elle me permet enfin de bouger à perpète, sans me ruiner les bras et me prendre la tête. Je trouve enfin le temps de t'écrire et de t'envoyer ce petit poème de mon cru.
Ben oui.
Tant notre temps ici est rempli, les ateliers succédant aux ateliers sans temps mort, les lectures succédant aux découvertes, aussi les heures filent en silence. Je te remercie encore et encore de m'avoir inscrit, contre mon gré, je l'avoue, c'était pris sur le temps des vacances, et à présent je regrette d'avoir bêtement tenté de m'y opposer, à ce stage prolongé d'écriture et de pratique poétique. Nous sommes une dizaine de stagiaires, la plupart, comme moi je l'admets, en pleine restructuration d'eux-mêmes. Ils sont arrivés ici, détruits de l'intérieur, et ils tentent opiniâtrement de remonter à la surface. Les formateurs nous ont prédit, vous allez trouver le poète qui est en vous. C'est vrai, je le sens de plus en plus en moi, ce poète. Ce matin, en buvant le mauvais café que l'on nous sert à la cantine, j'ai pensé à toi, et j'ai écrit immédiatement ce petit poème, quasiment un haïku, qui t'est dédié. Tu n'es pas là, mais tu es partout. Dans le pain et le beurre, et dans la confiture. Dans la douceur ambiante, dans la lumière et tout. Et tout le reste n'est que littérature. Tu vois, ma chérie, je fais de sacrés progrès. Je sens qu'entre nous, tout va changer. Tout va s'arranger. Je me sens tout à coup libéré. Les mots ne sont plus des obstacles insurmontables pour moi. Tu as eu raison, comme toujours. Maintenant, écrire une carte postale à Mémé ne sera plus la torture d'un week-end à Malo-les-Bains. La preuve, on dit que Saint-Malo, c'est mieux que Malo-les-Bains. Eh bien, ce n'est pas vrai. Sans être jacobin, on préfère la mer du Nord à l'ennuyeuse Manche. Pour nous, les plages du Nord, ce sera toujours dimanche. L'autre avantage de ce stage, c'est que l'on nous fait découvrir Baudelaire, Verlaine ou Rimbaud. Pour moi, c'était des monuments qui ne s'adressaient pas aux vermisseaux que j'étais. Je dois avouer que maintenant, chez ces poètes, il y a pas mal de facilité. Quelquefois, des déchets. Puisque je suis presque comme eux, je peux me permettre de le dire aussi brutalement. Ils sont trop complexes, et parfois la simplicité est prépondérante, et plus porteuse de beauté et de vérité. Le ciel est bleu, la mer est verte, dans le ciel planent les mouettes, la mer est bleue comme un merlan, dans le ciel nagent les goélands. J'ai peur à présent de ne penser que poétiquement. Je vais avoir du mal à remplir la prochaine feuille d'impôt, mais tu m'aideras. J'ai peur aussi, avec nos amis, avec nos proches, de mettre la barre très haut, trop haut. Mais je prendrai sur moi le temps de publier mon premier recueil de poèmes, alors je pourrai me découvrir et montrer en pleine lumière ce que je suis vraiment, le poète que je suis enfin. Mon amour, je reviens bientôt. Je te découvrirai pleine de grâce, toi la beauté du Quattrocento. En attendant, chérie, je t'embrasse.
Oh, mais c'est trop beau. Et comme c'est bon de voir un homme heureux.
Et un vrai poète, surtout.
Et amoureux, en plus.
Ah oui, enfin bon.
Quoi, enfin bon.
J'ai un autre problème.
Et au fait, vous vous appelez comment ?
Victor.
Ah, comme ça.
Comme,
normalement, mais oui.
En toute simplicité. Et madame, la chère et tante, c'est mais... Dominique Muller.
Oui, oui, je lui réponds.
Non. Bon, c'est normal, entre
bien
gens
sûr,
qui s'aiment.
Oui, les vacances, on répond.
Ouais, ouais, ouais.
Pendant que tu t'amuses à te restructurer, ce qui, me semble-t-il, te rend piètre poète, je gagnais notre vie au bureau emmuré. C'est que ça coûte lourd, ton essentielle quête. To be or not to be, ce poids que je supporte. La question est réglée, tu resteras stagiaire, ou tu iras ailleurs, où le diable t'emporte. Je suis lasse, Victor, d'un homme imaginaire. Et si tu aimes tant valises à roulettes, tu n'as qu'à devenir dans ta douce retraite. L'homme à tout faire est d'en payer de 2-3 miettes les nouveaux à rimer, car la muse parfaite, Victor, ce n'est plus moi. C'est que dans le métro, j'ai rencontré Rimbaud, et dans son bateau ivre, j'ai compris qu'avec lui, rien n'était jamais trop. Lui aussi est poète, ce qui ne fait pas vivre. Dorénavant, c'est lui qui recueille le fruit de mon labeur ingrat. Alors, dis, oublie-moi. Écris donc à Mémé, dont l'héritage luit, pour qu'un poète nul à son magot ait droit. Vas-y, Victor, envoie-lui haïku sur haïku. Moi, c'est fini. Du col, j'enlève mon licou.
Ah, elle est violente.
Alors,
moi, je pensais que c'était un gentil petit coup.
Ah,
quand même.
Ah, bon,
ah,
non,
moi,
bon,
je le voyais. Dessous, il y a l'apparence, il y a toujours des
surprises. C'est incroyable.
Ah, oui,
moi
mais quand
qui
même...
anime l'atelier d'écriture, j'aurais jamais imaginé.
Ah bon
non, là, c'est la poésie qui ruine l'amour.
Finalement.
Dès que la poésie s'immisce.
Un coup, mais c'est vrai, là, c'est très juste.
Fini.
C'est très juste, Jacques Vallée. Il vaut mieux le quotidien au ras du quotidien.
Ah oui, dès que l'on part dans la poésie, c'est foutu.
Il vaut mieux rester dans la fiction.
C'est pour ça, c'est pour ça que vous vivez seul. Seuls.
J'aime la vie quand elle rime à quelque chose. J'aime les épines quand elles riment avec la rose. J'aimerais même la mort si j'en sais la cause. Rime ou prose. J'aime ma chanson quand elle rime avec ta bouche. Comme les ponts de Paris avec bateau mouche. Et la perle des pleurs avec l'œil des biches. Rime triste. J'aime les manèges quand ils riment avec la neige. J'aime les nains qui riment avec Blanche-Neige. Rimons, rimons tous les deux. Rimons, rimons si tu veux. Même si c'est pas des rimes riches, arrimons-nous, on s'en fiche. J'aime les manèges quand ils riment avec la neige. J'aime les nains qui riment avec Blanche-Neige. Rimons, rimons tous les deux. Rimons, rimons si tu veux. Même si c'est pas des rimes riches, arrimons-nous, on s'en fiche. J'aime la vie quand elle rime à quelque chose. J'aime les épines quand elle rime avec la rose. J'aimerais même la mort si j'en sais la cause. Rime ou prose. J'aime ma chanson quand elle rime avec ta bouche. Comme les ponts de Paris avec bateau mouche. Et la perle des pleurs avec l'œil des biches. Rime triste. J'aime les manèges quand ils riment avec la neige. J'aime les nains qui riment avec Blanche-Neige. Rimons, rimons tous les deux. Rimons, rimons si tu veux. Même si c'est pas les rimes riches, arrimons-nous, on s'en fiche. J'aime la vie quand elle rime à quelque chose. J'aime les épines quand elle rime avec la rose. Rimons, rimons, belle dame. Rimons, rimons jusqu'à l'âme. Et que ma poésie rime à ta peau aussi. Rimons, rimons, belle dame. Rimons, rimons jusqu'à l'âme. Et que ma poésie rime à ta peau aussi.
Claude Nougaro rime.
Les papous, c'est dans la tête sur France Culture.
Le sport et les papous, c'est le moment. Gérard Mordia, il est fan du Tour de France, tout comme Jean-Bernard Puy. Et ils la connaissent bien, l'histoire du Tour.
Patrice Delbourg, lui, adore le foot, l'athlé, le tennis. Il a même un temps écrit sur les matchs à Roland-Garros dans l'équipe. Lucas Fournier, lui, a pratiqué le rugby. Il ne loupe jamais une rencontre importante devant sa télé ou sur les stades. Alors, il donne de la voix, retrouve pour l'occasion son accent de naissance à Lamalou. Quant à Jacques Bertrand, lui aussi, qui le dirait, a joué au rugby. Et c'est lui qui raconte aujourd'hui « Moi aussi, j'ai fait du sport, sauf que pour ce jeu, il doit imaginer qu'il est un ou une autre qui a, aurait pratiqué un certain sport avant de vivre une autre vie. C'est qui ?»
Nathalie Sarraute.
Ah oui, on l'imagine faisant quoi ? De la danse peut-être ?
Pilier de rugby.
Pilier de rugby.
Natation synchronisée.
Et j'ai des petits rôles à distribuer parce qu'elle a des lectrices ou des amis qui s'interrogent un peu sur ses mémoires, sur ses mémoires
de sportive. D'accord, donc vous voulez des voix féminines, masculines ?
Des voix féminines parce que j'aime autant.
Oui.
Donc je demande à Eva et à Dominique.
Ah très bien, moi elles sont très bonnes comédiennes.
J'adore Nathalie Sarraute.
Ah. Et elles vont jouer les rôles de qui alors ? De lectrice.
De lectrice anonyme. De...
Et Sarraute, c'est vous, bien sûr, Jacques.
Et Sarraute, j'interprète moi-même le rôle de Sarraute.
Oui,
voilà.
C'est un peu la même voix, d'ailleurs, que...
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte ?
Eh bien, elle raconte, elle dit, moi aussi, j'ai fait du sport.
Mais oui.
Oui, oui, bien sûr, on ne croirait pas, pas toujours, à un moment. Moi aussi, j'ai fait du sport. À un moment, je suis entré dans la compétition. Je ne serais pas entré dans les ordres, mais je suis entré dans les règles. Le règlement, je veux dire, qui peut se tourner, se contourner, se détourner. Ça ne me déplaisait pas vraiment, au fond, de jouer dans les règles, sur le sens des règles. Ce n'était pas une vocation, naturellement. À peine un concours de circonstances. Un ami m'avait tendu l'instrument. « Tu veux jouer ? Tu crois que c'est un jeu ?» lui avais-je demandé. Il en était persuadé. Je veux dire que cela s'inscrivait dans un mouvement, presque de parole ou bien comme un dialogue de source et selon, dans un vacillement, un retournement du sens. Comment disait-on déjà dans mon enfance ? Oui, même les souvenirs d'enfance finissent par se perdre. Il me semble que je possède ma vieillesse inexorablement, mais ma jeunesse m'a échappé, ou bien j'ai échappé à la jeunesse. Ah oui, j'y suis, on disait du tac au tac, répondre. Alors je lui ai répondu du tac au tac, disait-on. Les Chinois disent ping-pong. Mon ami m'avait prévenu, on doit dire tennis de table. Il s'agissait de se mettre à table, mais le filet était imposé, on ne risquait rien. Jusque-là, je n'avais assisté qu'à une seule démonstration de ce sport par des athlètes chinois. Ils maniaient leurs instruments, des espèces de petits éventails ronds, avais-je pensé, avec tant de dextérité et de vélocité que tout d'abord, je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait une balle en jeu. C'est cela qui m'avait plu, je crois, dans cette forme de dialogue, qu'il y ait une balle. Comment disait-on aussi ? Ah oui, se renvoyer la balle, du tac au tac, ping-pong, ping-pong.
Que dit-elle ?
Elle dit que c'est cela qui lui a plu, qu'il y ait une balle, et puis tout ce vacillement, ce renversement de sens.
N'a-t-elle pas parlé de retournement plutôt ?
Oui, de retournement. Elle retournait les arguments et inversement.
Cet ami m'a fait rentrer au puf ou au puc, ces détails n'ont plus tellement d'importance. J'ai eu toute licence de jouer, mais je manquais d'assurance. On me conseillait de lâcher mes coups, des coups de cœur, des revers de fortune. L'engagement était nécessaire aussi. Il y a ce moment où il n'y a plus de balle, où il n'y a plus que deux personnes penchées qui passent d'un pied d'appui sur l'autre, qui s'éventent avec leur raquette. Puis la balle surgit comme d'un éventail d'illusionnistes. 14-18. C'était toujours ce moment-là, 14-18, où quand c'était moi qui avais 18, j'étais sûr de perdre. Le plus curieux, peut-être, c'est que je ne me rappelle aucun visage. Les visages s'effacent. Les visages des adversaires, surtout. La fortune est aveugle, la justice est aveugle, l'adversité est sans visage. On joue toujours contre des fantômes, on perd en finale. Je me souviens du tournoi de Meudon, et aussi d'une grande tournée sur les tropiques. Tropiques, oui. Moi aussi, j'ai fait du sport.
Que dit-elle ?
Qu'elle a retourné des arguments sous les tropiques et qu'elle aussi, elle a fait du sport.
Ah, c'est magnifique. Ah. C'est un témoignage essentiel. Essentiel.
Mais c'est vraiment du Nathalie Sarraute,
naturellement.
Ben ah, c'est oui. Dans la Pléiade.
Dites-moi, Jean-Bernard Pouy, vous êtes quelqu'un dans la vie de Nathalie Sarraute à l'époque où elle jouait ?
Je suis son éventail.
Mais le vrai ou, ah, ou la raquette
le, son éventail.
Ah oui.
Qu'elle a pris pour une raquette à un moment donné.
Oui, oui, oui. Ça se passe bien avec elle ?
J'adore la littérature française.
Ah bon, donc c'est un bon voisinage, vous et elle.
Je suis l'éventail de Madame Nathalie, en soie grège de Kaido, avec bien sûr le mont Fuji sur mes plis. J'ai été offert à Nathalie par Hiroshi Yakamatsu, le conseiller culturel de la mairie d'Osaka, où se déroulent les championnats du monde de ping-pong. Je ne sais pas ce que Madame Nathalie, une perle de savoir sur le lotus d'un parchemin, a vraiment compris du ping-pong. Mais au début, c'était un plaisir ineffable de la caresser, du faible vent de printemps que je créais avec régularité à la faveur de son poignet nacré et régulier. Mais au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'elle me prenait vaguement pour une raquette. Tant les mouvements que Nathalie faisait n'étaient pas vraiment aux normes de mon existence. Elle m'a jeté dans tous les sens, de haut en bas, de bas en haut, et même, à un moment donné, m'a fait percuter le siège devant moi, cassant le mont Fuji en deux. Je souffrais atrocement, mais je n'ai rien dit. J'ai pleuré en silence, comme une geisha du Shinjuku. Cela n'a pas suffi à Madame Nathalie, celle que le conseiller Yakamatsu appelle pourtant la cigogne hésitante. Elle s'est mise, prise par le jeu des deux finalistes, à hurler, à piétiner et surtout à marteler tout ce qui était à sa portée de mon pauvre corps déjà démembré. Maintenant, dans la rosée du matin, seule sur le sable du jardin zen de son hôtel, en effet hier soir elle m'a jeté par la fenêtre, je ne suis plus rien que quelques bribes de bambou rompues auxquelles s'accroche un peu de soie grêche de Kaido, où l'on devine ce qui reste du mont Fuji, un peu de neige à son sommet. J'aime toujours la littérature française. Et heureusement que M. Yakamatsu n'a pas emmené hier soir Mme Nathalie à un combat de sumo, car maintenant je ne serai plus qu'un cure-dent au devenir infamant.
Oh, vous avez quand même de très jolis restes, et puis un passé valeureux avec elle, et voilà. Ça change tout.
Voilà, c'est ce que la littérature française nous amène là-bas, dans nos îles.
Ouais. Vous aussi, Patrick Beignet, vous avez bien connu Nathalie Sarraute à l'époque du ping-pong ?
Bien connu, pas de très près.
Non, mais vous êtes qui ?
Je suis le temps.
Le temps qui passe, le temps qui fait ?
Et le temps qui passe.
Et
qui est très présent dans le récit que vous avez entendu.
Bien sûr.
Alors évidemment, je suis au-dessus de ça.
Évidemment.
Je plane.
Ouais.
Ouais. Mais je suis très présent. Le temps, comme une gomme, une très grosse gomme, très douce, ni dure, ni sèche, mais une gomme prête à se déliter sur le papier. J'y avais jamais pensé auparavant, mais la comparaison me paraît excellente. Comme une gomme, j'efface les souvenirs ou les visages, j'efface les noms. On croit que les êtres et les choses s'estompent tout seuls, mais c'est moi le temps qui les efface, en silence, en douceur. Le temps, avec sa grande gomme, vous effacera tous. Un jour, les êtres ne seront plus là. Une couche de poussière recouvre la table de ping-pong abandonnée. La poussière recouvre même une raquette abandonnée là. Les grains de poussière sont tombés de ma gomme. Visage aveugle, dialogue de sourd. Tout ça n'est pas très drôle.
Non, c'est vrai.
Mais c'est très beau.
C'est très, 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 très
ah bien. Oui, c'est très prenant.
C'est plutôt Rogriet qui jouait au ping-pong.
Oui, c'était... Je pensais que c'était...
J'ai jamais fait la différence entre Rob Sarraute et qui
et Grillet Nathalie, oui. Ah, entre très joli. Alors, j'ose même plus m'adresser à Jacques Vallée pour savoir si... Oui, vous aussi.
Osez, je crois que...
Non, ne le faites pas, dispensez-moi, c'est... Moi, je suis très terre à terre. C'est un souvenir d'enfance. J'étais au collège avec Nathalie, je la connais bien. J'ai joué contre elle. Alors.
Dans la Meuse ?
Oui, nous étions camarades de classe et pendant les récréations, il y avait une table de ping-pong dans un sous-sol du collège. Elle se précipitait pour être la première. Elle était toujours la première. Moi, je ne réussissais jamais à voir l'autre raquette. La plupart, d'ailleurs, d'entre nous restaient à la regarder jouer. Elle maniait sa raquette avec une telle grâce, on avait l'impression qu'elle s'éventait. On était tous amoureux d'elle. Et moi, je mourais d'envie de jouer. Un jour, je suis sorti de classe avant les autres et j'ai attendu une raquette en main. Quel bonheur, c'est Nathalie qui a pris l'autre. « On va se renvoyer la balle », m'a-t-elle dit. Mais il faut d'abord me l'envoyer, j'ai interrogé. Où sont les balles ? A demandé Nathalie. Elle était resplendissante, je ne la quittais pas des yeux. Soudain, elle a dit « J'en vois ». J'ai cru qu'elle avait vu des balles, en fait, elle effectuait un service si foudroyant que je fus aveuglé. J'ai très vite compris que je n'étais pas de taille. Toutes ces balles me filaient sous le nez, les miennes se prenaient toutes dans le filet. Alors elle m'a dit « Restons-en là ». Puis, me montrant une balle, railleuse, ballot.
Oh, fin de l'histoire. Qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces rencontres autour de Nathalie Sarraute, Dominique Muller ?
C'est toujours difficile de rencontrer une grande dame de la littérature.
Voilà.
On se sent tout petit.
J'ai l'impression que c'est le cas de
dans les trois papous.
Exactement.
Oui, oui, oui.
Varför sörjer du Fernando? Varför klänger din gitarr i mor? Vad är det som står på? Är det kärleken Fernando? Har du nämnt dig din stora, stora kärlek? Är det så? Den som älskat och förlorat vet ett sant kan ändå hända då och då. Sorgen kan vara tung att bära.
ABBA, version Pink Martini, tout pour la musique aujourd'hui. Celle des mots aussi, des homophonies. Avec le clavecin bien trempé, elles sont deux à jouer, Nelly Kaplan, Odile Conseil. Chacune se lancera dans un récit avec une phrase d'ouverture et mènera son récit jusqu'à une autre phrase qui, vite dite, devrait ressembler à la première, en avoir la musique, mais pas le sens. C'est ce qu'on appelle une homophonie approximative, un jeu auquel Raymond Roussel, le grand Raymond Roussel, a joué dans « Comment j'ai écrit certains de mes livres ». Pensez à ce souvenir de Raymond Roussel, l'extravagant, en lisant ou relisant peut-être cet été sa biographie par Patrick Beignet. Bon, c'est à vous, Odile Conseil. Comment démarrez-vous votre histoire ?
Je démarre d'une façon qui est assez connue, je pense, c'est pour faire le portrait d'un oiseau.
Ah oui, ça me rappelle quelque chose. Et donc l'homophonie portera sur tout ça.
Absolument.
Pour faire le portrait d'un oiseau.
Pour faire le portrait d'un oiseau, il te faut d'abord un oiseau, bien sûr, quoique l'oiseau puisse être dans ta tête. Enfin, pas l'oiseau, mais l'image de l'oiseau, emprisonnée dans ton cerveau, un peu comme dans une cage. Si l'image s'est enfuie de sa cage, parce que tu l'as peut-être laissée ouverte, il arrive que tu sois distraite, ou bien tu l'as ouverte exprès pour voir s'égayer les images, les regarder s'envoler, c'est beau, alors il te faut un oiseau vrai. Tu peux en trouver au marché aux oiseaux, s'entend. Ou bien sur une branche perchée, mais alors sois discrète pour ne pas l'effrayer. Si tu trouves ça trop compliqué, tu peux aussi acheter le portrait d'un oiseau au marché des antiquités, ou bien peut-être sur eBay et faire le portrait de ce portrait qui a l'avantage de ne pas bouger. Ensuite, il te faut un pinceau en poil de loutre ou de chameau. Il y a toutes sortes de pinceaux. Pour s'en faire un rigolo coupa un jour la queue d'un veau, mais c'était vache pour le veau. Un tel utilisait un plumeau, ma mère se servait d'un poireau.
C'est l'intermédiaire, ouais, mignon. Pour faire le portrait d'un oiseau, ma mère se servait d'un poireau.
Ma mère se servait d'un poireau, ça faisait un drôle de pinceau, mais c'était bien pour les osios, surtout pour ceux qui aiment le poireau. Alors voilà, t'as ton oiseau, t'as ton pinceau, t'as ton papier, ou bien ta toile, faut te lancer. Pose une tache bleue par là, une verte ici, une rouge comme ça. Mais ton oiseau, c'est un ara. Oh non, non, pas de marron. Ah, c'est malin, ça fait cochon. Comment, tu veux faire le portrait d'un cochon? Bon, dans ce cas, il te faut un cochon avec une queue en tire-bouchon. Justement, en voilà un mignon. Emmenons-le à la maison, on le mettra dans le salon pour faire son portrait en pied. En pied de cochon, évidemment. Allez, viens, mon cochon, sois bien tranquille, pas trop ronchon. On te donnera du saucisson. Non, je rigole. Allez, pour le portrait, tu vas poser. Mets-toi comme si, une patte en l'air, un peu comme ça, sois pas vénère. Relève ta tête, frise ta queue, regarde-nous, et l'air charmeur. Non, ça va pas, ah quel malheur. Faisons une pause, moi ce cochon, j'en ai ma dose. Allongé sur le sol, le goré s'évade par la pensée. Il veut de la tranquillité, il veut gentiment se vautrer, dans la soue, dans la boue. Tous ces mots le rendent fou. Il s'imagine ailleurs avec des animaux, des gazelles et des corbeaux, des lémuriens, des chevaux, des phoques qui se cachent à l'eau, des loups doux comme des agneaux. Par terre, le porc rêve d'un zoo.
On se demandait où elle nous emmenait. Ouais. Hein. Oui. Elle nous emmenait au zoo. Par terre.
Le porc rêve d'un zoo.
Pour faire le portrait d'un oiseau, on n'est pas si loin, hein. On est très homophonique même. Alors moi, je trouvais un brin pervers quand même de proposer au cochon de manger du saucisson. Ça, c'est absolument.
Je lui dis juste après, non, je rigole.
Ouais, mais ça il a quand même tenté le coup. Hein.
Ça plairait à Minet, ça.
Ah oui, Minet exactement. Adore les petits cochons, oui.
Bon, alors, je la dédie à Minet.
À voilà. Minet.
Donc Nelly Kaplan, aujourd'hui on joue aux homophonies approximatives et vous deviez imaginer un début et puis une histoire et une chute homophonique ou presque de votre début.
Presque.
C'est chose faite, presque. Allez, on vous écoute.
Je passe l'aspirateur.
C'est ça la première phrase? Oui. C'est là-dessus que portera l'homophonie?
Oui.
Je ne vous imagine pas du tout passant l'aspirateur non, personnellement. Non,
mais c'est une fiction.
C'est, une c'est fiction, pour ça oui. Qu'après ça, ça dégringole, oui.
Vous avez fait une homophonie intermédiaire, qu'on la guette?
Non, il n'a pas d'intermédiaire. Il a un début, bien, une fin.
C'est pur, c'est magnifique. Alors,
je passe l'aspirateur au sommet de la cordillère des Andes au moins une fois par semaine. C'est fou ce qu'elle peut ramasser comme poussière. Parfois à cause des aigles, souvent par des Indiens à bicyclette, sans parler des enfants des dinosaures en goguette. Je suis payée pour ce travail en viande de lama ou quelquefois en feuilles de coca. Ceux qui croient me gouverner sont loin de se douter que Dracula fut mon papa et que j'aime le sang bien plus que la vodka. Aussi, aux équinoxes ou quand la lune est rousse, posté en stratège et caché sous des mouches, j'attends un bon guetteur et les moments venus, en ouvrant bien la bouche, j'aspire le passeur.
Je passe l'aspirateur, j'aspire le passeur. Bon, on est cohérent par rapport à l'aspirateur. Hein.
Absolument.
Je ne sais pas si c'est une homophonie. Mais est-ce que c'est vraiment dérangeant?
On est contre-pé aussi, non?
Pardon.
On est quelque part vers le contre-pé.
Plutôt, je passe l'aspirateur, oui, j'aspire le passeur.
J'aspire le passeur. Moi, je trouve que c'est un peu coquin, hein. C'est un peu olé olé quand même, parce que aspirer le passeur.
Oui, c'est oui, mais enfin, là-haut.
De la part de Nelly, c'est pas une grande découverte.
Qu'est-ce que c'est, c'est...
Oui, mais je pense
qu'on ne pouvait s'attendre qu'à ça.
Je pense, comme l'a dit, si justement.
Vous ne pensez qu'à ça, parce que moi, je pensais à autre chose.
Oui, mais on n'en voit jamais la couleur. Hein.
La couleur de mes pensées.
Voilà.
Non, puis finalement, on vous demande d'écrire une homophonie, vous écrivez un contre-pé parce que vous savez que c'est davantage coquin. Alors, vous faites un contre-pé propre, mais plein de sous-entendus.
Non.
Non.
Propre. Il faut pas. Non, mais entre le contre-pé et l'homophonie, il y a, des fois, il y a très très peu
une parenté.
Parce que c'est vrai que le contre-pé est une homophonie. On pense aux mêmes consonances et on les arrange autrement pour faire les textes. Mais là, c'est pas vraiment un contre-pé, c'est une homophonie.
J'aspire le pasteur eût été un parfait contre-pé. S'il y avait eu un pasteur à la place d'un passeur, alors quel genre de pasteur? Un berger sur la cordillère des Andes, ça
les
peut s'imaginer.
Pour Nelly, ça va pas être un berger.
Un pasteur de la contre-réforme.
Un pasteur, c'est un passeur d'âme.
Absolument.
On vous laisse le mot de la fin, Nelly. Morceaux de choix pour collectionneurs et de la musique avant toute chose aujourd'hui, avec cette définition en vers et en chanson du mot « parenthèse ». C'était un samedi soir du joli mois de juin 98. Nous étions 8, 9 ou 10 sur la scène du Studio 104 avec Bertrand Jérôme. Et Emmanuel Brouillard nous avait fait découvrir qu'il avait une bien jolie voix et le sens de la mesure, accompagné au piano par Jean-Michel Bernard, qui jouait aussi avec Ray Charles à l'époque. Waouh ! Excusez du peu, Emmanuel Brouillard, souvenir, souvenir.
Vous êtes deux vermicelles qu'aimait Raymond Roussel, parenthèse. On vous met à l'écart, y a pas de mais, pas d'égard, parenthèse. Au milieu de la phrase, y a pas de place pour l'emphase, parenthèse. C'est entre parenthèses, vous filez à l'anglaise, parenthèse. Quand vous êtes dos à dos, on dirait un ado avec son sac à dos, pédant comme un bardeau, parenthèse. Mais quand vous êtes de face, là vous retrouvez la face. Vous êtes deux sœurs jumelles, galbées comme des bluebells, parenthèse. Ouh. J'aime les signes de ponctuation. Les parenthèses, ça a du bon. Ça permet d'y laisser des secrets et de susurrer des mots sucrés. Une parenthèse pour les Hollandaises, il y en a dans le fond là-bas. Une parenthèse pour les Ougandaises. Une parenthèse pour les Finlandaises. Une parenthèse pour les Maltaises. Si vous êtes comme ça, alors ouvrons-la. Si vous êtes comme si, et glissons-nous-y. J'aime les équations, j'aime leurs jolies inconnues, au milieu de ces signes de ponctuation qui les rassemblent à moitié nus. J'aime entièrement les découvrir avant de tomber en hypotension, de leurs parenthèses les faire sortir et les emmener en digression. Ta guiche le grammairien fait la niche et le tapin, parenthèse. Tu voudrais qu'on te remplisse de digressions factices, parenthèse. La syntaxe, tu t'en fous, la malaxe, la bafoue, parenthèse. T'es jalouse des tirés qui viennent pour te remplacer, parenthèse.
T'es qu'un signe algébrique, longiligne qu'on imbrique, et les jambes arquées des cavaliers, elles sont en parenthèse. De tous tes apartés, de tous tes jardins secrets, on se lasse pas l'excursus, on en veut toujours plus, parenthèse. Vous êtes des vermicelles, téméraires, mon Roussel, parenthèse.
Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Au micro, Françoise Trossard et la bande des papous du jour. À suivre, le droit de réponse d'un personnage de fiction et la textée de Gérard Mordillat pour Eva Almassy et Hervé Letellier. Voilà la situation, son costume de héros le gêne aux entournures, il se sent coincé dans l'histoire que son père, écrivain, imaginait pour lui. Alors, il aimerait un autre rôle, mais voilà, les plus beaux ont déjà été distribués. Ça ne l'empêche pas de rêver, ce personnage de fiction. Il a des choses à dire, alors il les écrit, et c'est Jacques Vallée qui a choisi de se glisser dans sa peau. C'est le moment du droit de réponse au papou. Jacques Vallée, vous êtes qui ou quoi ?
Je suis une cassette.
Oh, les bonnes vieilles cassettes. J'en ai jeté, mais plein récemment.
Pas ce type de cassette.
Ah bon ?
Non,
sais.
C'est la cassette de l'avare qui est écrite à Molière.
Ah oui, effectivement, rien à voir.
Monsieur, en me mettant sciemment au service du sieur Harpagon, qui, dites-vous, est de tous les humains l'humain le moins humain, le mortel de tous les mortels le plus dur et le plus serré, avez-vous songé au mal que vous me faisiez ? Il se trouve que depuis, je suis assimilé à l'avarice, on me brocarde. Auprès de sa cassette, l'avare ne saurait jamais fermer l'œil. Or, quand vous êtes venu me chercher, je jouissais d'une bonne réputation. Je suis une cassette de métal, richement ciselée, et l'œuvre d'un artiste très habile, Johannes de Bernardi de Castelbolognese, dont le chef-d'œuvre, en argent, ma sœur aînée, peut se voir au musée de Naples. Moi, j'ai appartenu à la célèbre famille Farnèse. Je renfermais des bijoux. Comment ai-je échoué chez ce brocanteur où vous m'avez trouvé ? Qu'importe. Je ne suis pas ici pour raconter ma vie. J'ai d'abord beaucoup de griefs à vous formuler. Outre l'amertume que je ressens d'avoir été confié au seigneur Harpagon, je regrette le peu d'égard que vous me témoignez dans vos écrits. Vous ne prenez même pas le soin de me présenter avec les autres personnages. Or, bien que vous m'ayez engagé comme accessoire, ne suis-je pas devenu l'héroïne de votre pièce, la maîtresse d'Harpagon, l'objet de sa passion délirante ? Non seulement cet affreux bonhomme me cajole, me dorlote, il ne peut se passer de ma présence, je l'obsède, je suis sa chère cassette, ne croit-il pas qu'on a brûlé d'amour pour moi, que j'ai des beaux yeux ? Ainsi, l'action principale de ce spectacle repose sur, si j'ose dire, mon frêle couvercle.
Bon, alors de quoi vous vous plaignez ?
Mais ne serait-ce pas logique que je figurasse en tête de votre ouvrage et de vos affiches ?
Ah, oui.
Ce
évidemment.
N'est pas de plus un rôle de tout repos. On m'enterre sous terre, dans le jardin, un valet me dérobe, je disparais, la police enquête, je sers de monnaie d'échange. Et à propos de monnaie, je sais bien que ce que je contiens préoccupe davantage mon obsédé que mes formes extérieures. Ce n'est pas rien d'abriter 10 000 écus en louis d'or et en pistoles trébuchantes. Surtout lorsqu'on passe de main en main, aussi outre mon cachet, je demande que vous m'accordiez une prime de risque.
Ah.
Et même que vous engagiez pour moi un garde du corps. Bref, vous comprenez que ma démarche vise non seulement d'obtenir un dédommagement pour mauvais traitement, je désire revoir avec vous, de tout au tout, les termes de mon contrat de travail. Vous devrez à l'avenir me montrer davantage de respect, car autre faute impardonnable, je n'apparais que furtivement à la scène 6 de l'acte 4, lorsque ce maudit valet qui m'a déterré, m'emportant sous son bras, traverse le plateau en courant. Et bien que par la suite, il ne s'agisse plus que de moi, jusqu'à la fin de la pièce, je ne reviens plus sur scène à aucun moment. Harpagon a beau réclamer ma présence pour prendre conseil de moi, vous restez sourd. Vous ne daignez même pas me faire participer à la fête finale quand celui-ci dit sa joie à l'idée de me revoir. Bref, vous vous désintéressez complètement de mon sort. Or, sachez, monsieur, que tout en étant cassette, je n'en suis pas moins susceptible. Et il me prend parfois l'envie de venir chez vous tout cassé. Enfin, Je ne vous parlerai point ici des avantages que j'aurai à prendre du service chez un collectionneur réputé, par exemple chez votre ami Corneille. Pour l'instant, je vous dirai seulement que je suis prête à renégocier avec vous les termes de notre accord. Je suis votre très humble, très obéissante et très fidèle servante, La Cassette.
Voilà, bon, elle dit les choses assez élégamment, elle n'est pas contente, mais en même temps, elle a quand même un bon petit job, hein.
Oui, ben, il faut bien gagner sa vie.
Bon, elle trouve qu'on la reconnaît pas assez. Un manque de reconnaissance, quoi. Hein, qu'est-ce que vous en pensez, Lucas ?
Bon, La Cassette, on la ferme en général.
Bon, si vous voulez. Hervé Letellier, oui. Vous avez le look Molière, non ?
Non, pas du tout.
Oh, vous n'êtes pas Molière ?
Non. Je suis le directeur général de la Banque nationale des personnages.
Ah, et oui. Vous répondez quand même à La Cassette.
Oui, bien sûr.
Comment la lettre vous est-elle parvenue ?
Écoutez,
c'est discret.
Non, c'est pas discret du tout. Je me permets de contacter Madame La Cassette. Oui. Demande de Monsieur Jean-Baptiste Poquelin.
Ah, quand même, oui.
Qui nous a fait parvenir, bien sûr, son courrier.
D'accord.
La Banque nationale des personnages s'enorgueillit en effet de compter parmi ses clients quelques figures notables du domaine de la fiction.
Hein, oui.
Et nous pouvons donc, je crois, être en mesure de répondre à certaines de ces demandes. Nous gérons en effet depuis fort longtemps, je crois qu'on peut le dire, depuis le début du XVIe siècle, les fonds de plusieurs personnages très divers. Sans nous vanter, hein, je crois que, bon, c'est pas la peine, mais c'est un petit peu grâce à nous que le bourgeois Le Paquin a pu racheter la Cerisaie.
Hein,
oui, nous avons depuis en dépôt, depuis 1932, la fortune de M. Picsou, et depuis 1733, celle de M. Racam le Rouge. Hélas, disparu. Nous ne savons pas, en mer, paraît-il. Et oui. De plus, nous avons amorti les pertes d'un joueur, M. X, de Dostoïevski. Nous conservons l'anonymat pour d'évidentes raisons de secret médical. Nous avons donc ouvert depuis peu un département spécialisé dans les, pardonnez le terme, Madame La Cassette, accessoires, à la demande spontanée de ces derniers. Nous gérons aussi bien le trésor de l'île de M. Stevenson que celui de l'abbé Farias, qui a demandé à être sous protection suite aux dépenses exorbitantes de M. Dantès. Nous avons en gestion patrimoniale les 5 sous de M. Lavarède, qui s'élèvent aujourd'hui à presque 1,25 € grâce à 60 années d'une gestion judicieuse et protectrice. Et par exemple, les 99 francs de M. Becbédé valent actuellement 13,27 €, hein, soit 7% net d'impôts en 12 ans d'exploitation.
Ah oui.
Mais oui. Alors nous comprenons bien que la gestion actuelle de M. Harpagon est très conservatrice et qu'en période d'inflation, une dévalorisation lente mais inévitable et prévisible. Pour éviter cette érosion de votre capital, Madame La Cassette, nous vous suggérons un placement obligataire, sans risque, sur les dettes souveraines des maisons d'édition.
Hein,
oui, je me tiens à votre disposition et je vous prie d'agréer, Madame La Cassette, à l'expression de mes sentiments, etc.
Oh, c'est intéressant. C'est pas un rôle.
7%,
mais...
7%.
Je ne suis pas quelqu'un d'intéressé. Moi, c'était de la reconnaissance dont j'avais besoin. Alors, j'ai l'âme désintéressée.
7%, c'est une énorme reconnaissance.
To roar, the boys all go to hell, and then the Cubans hit the floor. They drive along the pipeline, they tangle to their sore. They take apart their nightmares and they leave them by the door. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks a bed on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past and send me off to bed forevermore. Make sure they play my theme song, I guess daisies I have to do. Just get me to New Orleans, empty shadows on the pews. Turn the spit on that pig and kick the drum and let me down. Put my clarinet beneath your bed till I get back in town. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks or better on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed forevermore.
make sure she's all in calico and the color of a doll. Wave the flag on Cadillac Day and a skillet on the wall. Cut me a switch, oh, hold your breath till the sun goes down. Write my name on the hood, send me off to another town. Then just let me fall out the window with confetti in my hair. Deal now, Jack's a better on a blanket by the stairs. Tell you all my secrets, but I lie about my past. Will you send me off to bed forevermore?
Un bon vieux Tom Waits, Tango Silver Shore. Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête sur France Culture, la textée avec Gérard Mordier en maître du jeu. Et il a choisi de texter, c'est-à-dire de dicter, mais avec d'autres mots, à lui de faire preuve d'imagination. Un bout de texte, poème, chanson, prose, il est libre de son choix, Gérard. Et libre aussi de faire passer le sens avec des métaphores, des figures de style, des allusions personnelles, qui sait, sur l'un ou l'autre des candidats à sa textée, à savoir Eva Almassi, Hervé Le Tellier, son but, leur donner envie d'écrire sous la contrainte et d'écrire un texte qui ressemblera peut-être dans l'esprit et l'humeur à celui qu'il aura choisi. Alors on va écouter votre feuille de route, Gérard Mordia, constituée d'un certain nombre d'injonctions à suivre de près par vous, Eva, par vous, Hervé. Est-ce qu'il y a d'abord un petit chapeau sur l'ambiance générale ?
Oui, je dirais qu'il y a une consigne générale. Pour bien faire l'ensemble de ce texte, il doit être un hommage au philosophe Max Stirner, 1806-1856, auteur de « L'unique et sa propriété ».
Voilà, voir c'est... ce nom, vous connaissez, Eva ?
Bah, j'ai entendu le voisin d'en parler souvent.
Ah bon, votre voisin. Bon,
c'est
alors,
écoutez. Le fondateur de l'anarchie.
Très bien, très bien. Hervé Le Tellier, évidemment, le connaît très, très bien.
Ouais. J'ai failli le retraduire, je crois que la traduction était un peu médiocre.
Alors, on écoute, il y a combien de consignes ?
Il y en a 6, mais c'est des choses très brèves.
D'accord. Et c'est de la prose ou ce sont des vers ?
C'est de la prose.
Oui.
Vous donnerez un titre où flottera avec une ironie légère l'évocation lacunaire d'une œuvre d'Hervé Le Tellier.
Non, et c'est lui qui va travailler dessus.
J'ai tellement écrit que
je suis
beaucoup plus perdu.
Que... C'est pas un avantage.
Ouais. Hein. Mais c'est pas sûr que ce soit un cadeau. Ça,
bah non, parce en que fait, le... non, ça, je vais m'égarer. Dans...
Ah oui, vous dans allez mon... douter, ouais. Mon avis.
Dans la première phrase, vous exprimerez la situation personnelle du héros de ce court texte, sa vie partagée entre la mémoire de Jean-Jacques Rousseau et celle de Georges Brassens.
Il y a comme un gouffre entre les deux. Peut-être pas tant que ça, d'ailleurs. Après...
Dans un deuxième temps, brièvement, presque sèchement, vous décrirez notre héros en peu de mots très bien choisis.
Oui.
Vous poursuivrez sa description dans une troisième phrase, plus admirative, où non sans une certaine émotion flotteront les fantômes de Paolo Véronèse et d'Yves Klein.
Ça se complique, hein, quand même. C'est... Mais effectivement, Gérard Mordia a des lectures très exigeantes.
Il y a quand même deux couleurs. Si on mélange, si on mélange les deux, on a la turquoise. Donc,
oui.
Comme un coup de cymbale, vous conclurez cette description par une appréciation définitive, indiscutable.
Oui.
Ensuite, non sans évoquer Saint-Laurent, vous déploierez une phrase plus longue aux accents bucoliques que conclura une remarque gastronomique témoignant de votre expérience en la matière.
Oui. Il a un petit sourire réjoui, Hervé Le Tellier, j'ai l'impression
que... j'ai un sourire figé.
C'est pas la même chose.
Un peu crispé.
Juste après, d'une question un peu canaille, vous vous interrogerez sur votre précédente remarque. Pour nommer notre héros, vous hésiterez ou feindrez d'hésiter entre deux noms, l'un et l'autre synonymes d'une certaine manière. Et vous achèverez d'une nouvelle question en forme de calembour que n'aurait pas dédaigné Patrice Delbourg.
C'est un peu private papou, quand même. On a le Tellier, on a Delbourg, c'est déjà long, ça. Hein.
C'est très, très culturel, surtout. Même.
Oui. Et Gérard Mordilla a un air absolument réjoui, donc on a l'impression que le texte va être joyeux.
On sent qu'il s'est amusé à nous égarer, voilà, c'est ça qui est triste.
À mon avis, c'est un jeu de piste, oui. Une question, Eval Massy ?
Ben non. Je suis effrayée.
Massy, Hervé Le Tellier, donc finalement c'était du billard ou pas ? Parce que vous n'étiez pas très sûr avant de vous lancer dans l'écriture, et maintenant que vous avez écrit quelque chose, quelle est votre réaction, votre impression ?
Ah, moi c'est pas du billard.
C'est pas du billard.
Je suis très très loin de du billard.
Non, c'était facile, Eva, ou pas?
J'ai pas réussi en ambiance générale à la philo, là, puisque j'ai jamais emprunté le livre du voisin jusqu'ici.
Oui.
Mais je l'ai glissé dans une de mes phrases, quand même.
Bon, alors on va voir. On va reprendre votre texté, Gérard Mordilla, point par point, et on va voir ce que ça donne. Alors, rappelez-nous le nom du philosophe.
Max Stirner.
Donc, on va écouter les consignes. Alors, première consigne, Gérard Mordilla.
Première consigne. Vous donnerez un titre où flottera avec une ironie légère l'évocation lacunaire d'une œuvre d'Hervé Le Tellier.
Alors, c'est normal que je me tourne d'abord vers vous, oui. Hervé Le Tellier, puisque vous êtes concerné à double
Absolument.
Titre.
Eh bien, le titre, c'est « Rien d'inoubliable ».
Rien d'inoubliable.
Ce qui est une partie de « Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable ». Donc, j'ai gardé « Rien d'inoubliable ».
Et vous avez choisi ce titre parmi tous vos titres.
Oui, parce que j'ai regardé le texte que j'avais fini par produire.
Oui.
Et je crois que rien d'inoubliable correspond exactement à ma production.
Ah non, trop modeste.
Et pour vous, Eval Massy,
mais moi, j'ai pensé à votre livre. Je m'attache très facilement, mais oui. Comme il fallait être lacunaire, j'en ai gardé. Je me tâche très facilement.
C'est pas mal, ça.
Oui, c'est bien aussi.
C'est aussi son genre, hein.
Oui, moi, je m'attache tout le temps.
Prix du roman d'amour, on ne le dira jamais. Suffisamment. Je ne sais plus en quelle année, mais bon. Il avait gagné un voyage à deux.
Avec les personnes de mon choix.
Oui.
Mais oui.
Ça ressemble ou pas trop, Gérard Mordilla ?
Non, ça ne ressemble absolument pas.
Non.
Ouais. Non.
Bon, c'est pas du tout le titre d'Hervé Le Tellier
tout
que vous aviez en tête.
Tout en étant parfaitement respectueux.
Ah, c'est respectueux de la consigne. Ça
ouais. Alors, on s'attaque à la première injonction.
Dans la première phrase... Vous exprimerez la situation personnelle du héros de ce court texte, sa vie partagée entre la mémoire de Jean-Jacques Rousseau et celle de Georges Brassens.
Alors, quelle est cette situation personnelle du héros, Hervé Le Tellier ?
Elle se promenait seule, ça c'est Jean-Jacques Rousseau, sur la plage de Sète, et ça c'est Georges Brassens.
Et donc, c'est une héroïne.
Ah oui, j'ai décidé de féminiser un peu la situation.
Et pour vous aussi, Eval Massy ?
Non, c'est un homme. Notre promeneur solitaire use ses fonds de pantalon sur les bancs publics, sans amoureuse à mes côtés.
Ça, c'est parfait. Brassens, c'est présent à la plage de Sète, les bancs publics. Et pour vous, Gérard Mordilla, on est proche ?
Je suis admiratif. On est tout à fait dans le cœur de cible de cette histoire.
Avec les deux ?
Avec les deux. Plus particulièrement avec Eva, qui a vraiment senti exactement et Jean-Jacques Rousseau et Georges Brassens.
Et les Bécaud, alors, peut-être.
N'exagérons rien.
Après, point trop en faux.
C'était Brassens, pas Bécaud.
Oui. Ensuite, Gérard.
Dans un deuxième temps, brièvement, presque sèchement, vous décrirez notre héros en peu de mots, très bien choisis.
Alors, elle est comment, cette jeune femme, votre héroïne ?
Une grande blonde,
oui.
Comme aurait écrit Eschnoz. Ce qui fait que, finalement, les mots très bien choisis sont chez Eschnoz et pas chez moi. Donc là, je résous un peu le problème.
Oui, c'est pas mal, ça, une grande blonde. Et avec vous, un beau brun, Eva ?
Non.
peu malin, il n'a pas vu le panneau « Attention, peinture fraîche ».
Évidemment, puisqu'il se tâche très facilement, ça, y a une logique. Gérard, on est toujours plus proche avec Eva Almassi qu'avec Hervé Le Tellier.
Nous dérivons. C'est à nouveau, la vague s'est repliée au loin.
Mais est-ce que le choix d'une héroïne d'Hervé Le Tellier ou d'un héros pour Eva Almassi, chez vous, on penche vers le féminin ou le masculin ?
Eh bien, je crois qu'on penche plutôt vers un concept shakespearien où l'on ne sait trop si c'est un homme ou si c'est une femme.
C'est un indice, ça. Je sens que Lucas a trouvé. Ou c'est un animal.
Peut-être.
Alors ensuite, vous disiez...
Vous poursuivrez sa description dans une troisième phrase plus admirative... Où, non sans une certaine émotion, flotteront les fantômes de Paolo Véronèse et d'Yves Klein.
Alors on vous attend, Hervé Le Tellier, sur Véronèse et Klein.
Alors ça, c'est très très simple. Elle occupait plutôt bien son jean et son t-shirt vert. Le t-shirt vert flotte, évidemment, donc le fantôme flottant, tout ça, voilà.
Oui.
Et puis on a les deux couleurs.
J'aime bien le côté « elle occupait plutôt bien son jean », ça veut dire « elle avait des jolies fesses ».
Ah bah non, ça veut pas dire, ça veut simplement dire qu'il y a une certaine émotion chez moi.
D'accord.
Et la phrase est plus admirative que la première.
Oui. D'accord. Eva Almassi.
Eh bien, mais je vous annonce que c'est là que j'ai mis toute la philosophie, l'unique et sa propriété, parce que j'ai pas pu donc faire l'ambiance générale. Donc écoutez bien. Tandis que son derrière, qui lui appartient en propre, devient tout bleu, la pelouse verte qui appartient à tous absorbe sa vue et sa pensée inaliénable.
Bon, on est plus proche du charnel d'Hervé Le Tellier ou de l'intellectuel Eva Almassi.
Écoutez, on est surtout proche des couleurs. Tout est là en couleurs. Et sans ça, eh bien, nous continuons ce mouvement de marée, si je puis dire.
Bien. Alors après, vous disiez, comme un coup de cymbale, vous conclurez cette description par une appréciation définitive, indiscutable, Hervé Le Tellier.
C'était du bois pour l'enfer.
Ah, c'est ça que ça vous fait comme impression, les femmes qui occupent bien leurs jeans.
Ça peut avoir cet effet-là sur une âme faible. Et je ne suis pas toujours
Il prend pas à s'embraser,
voilà.
Oui, eh ben,
il est fichu.
Il est fichu, oui. Oui, c'est...
oui.
C'est définitif.
Oui, absolument. Donc, il n'y a rien à dire.
Non, il n'y a rien à dire. Alors ensuite... Non, sans évoquer Saint-Laurent, vous déploierez ensuite une phrase plus longue aux accents bucoliques que conclura une remarque gastronomique témoignant de votre expérience en la matière.
Alors là, on vous attend sur la phrase plus longue parce que jusqu'à présent, on était vraiment dans la brièveté.
Oui, ce qui permet qu'elle soit deux fois plus longue en restant brève. Alors, sous le vent qui soufflait, ses cils se fermaient. Ses cils, c'est évidemment pour l'allusion à Saint-Laurent. Et la mère faisait des moutons.
Elle est à tiroir, oui.
Ah bah, il me semble que le principe même de la textée est à tiroir. Donc, sous le vent qui soufflait, ses cils se fermaient, et la mère faisait des moutons, mais ceux-ci n'étaient pas comestibles.
C'est pas mal.
Il est tout à fait dans l'esprit.
La remarque gastronomique concernant mon expérience en la matière, je sais très bien qu'un mouton de mer n'est pas comestible.
Oh là là. Non, c'est bien. Vous avez une vraie connaissance
de la mer.
De la nourriture.
Ça va être beaucoup plus terre à terre. C'était dans la vaste nature, son seul vêtement qui tombait impeccable. Foutu pour foutu, il tache sa chemise par la moutarde forte de Dijon, de son canapé, le pire cauchemar des teinturiers. C'est là l'expérience personnelle.
Et Yves Saint-Laurent, c'est la moutarde ?
Non, c'est là, le vêtement qui tombe impeccable.
Redites-nous ça.
C'était dans la vaste nature, pour être bucolique aussi, c'était dans la vaste nature son seul vêtement qui tombait impeccable. Foutu pour foutu, il tache sa chemise par la moutarde forte de Dijon de son canapé, le pire cauchemar des teinturiers.
C'est vrai, vous faites allusion au fameux smoking de Saint-Laurent, qu'il a décliné aussi bien en version homme qu'en version femme.
Dans mon inconscient, c'était ça, sans doute.
J'ai l'impression qu'on s'éloigne avec Eva.
Oui. Eva est très très loin. Hervé, lui, s'est rapproché de façon brillante.
Mais oui. Non, mais c'est son genre. Il commence un peu mezzo et puis il devient très brillant, plus ça avance.
Alors, juste après, d'une question un peu canaille, vous vous interrogerez sur votre précédente remarque.
Alors, ma précédente remarque, c'était que les moutons de la mer n'étaient pas comestibles. Mmh. Et donc, je m'interroge, mais elles, en revanche, ne l'étaient-elles pas tout à fait?
Évidemment, le dragueur approche absolument pas.
Alors, c'est le même esprit, donc, le pire cauchemar des teinturiers, ou alors de la petite blanchisseuse qu'il poursuit de ses assiduités.
Ah ben on est aussi, oui.
Ah ben non, mais on est dans le canaille, mais oui. Bon.
Dans le coquin, alors, on va dire. Oui.
C'est là qu'on... Parce que c'est à ce moment qu'il faut nommer notre héros, et vous hésiterez ou vous feindrez d'hésiter, entre deux noms, l'un et l'autre synonymes d'une certaine manière.
Hervé.
Elle aurait pu s'appeler Marine ou Océane.
Mais oui.
Alors moi, je cherche dans la chanson. Donc, c'est Gainsbourg ou Gainsbourg.
Oui.
Ah oui, lui.
Oui, ou alors, bon, vieux cochon, vieil anard, pour rester dans l'anarchie, Gainsbourg ou Gainsbourg.
Mais Gainsbourg, il était toujours impeccablement propre.
Oui, tombait propre.
Jamais une tache sur les vêtements blancs, sur les chaussures blanches de Gainsbourg. Alors, c'est peut-être Gainsbourg.
C'est la seule fois. Ouais.
Et donc, vous achèverez d'une nouvelle question en forme de calembour que n'aurait pas dédaigné Patrice Delbourg.
Alors, Patrice Delbourg, là, on vous attend, Hervé Le Tellier. Serez-vous à la hauteur?
Non. Non, mais en revanche, je ne décevrai pas par rapport à la scène de départ. Et donc, il va vers elle et... Bonjour, mademoiselle, vous marinez chez vos harengs?
Ah, oui, non, c'est pas mal. Je crois qu'il
appréciera. Pas mal.
Eva.
Mais ce gazon coupé à ras, dès le printemps, les jardiniers ont-ils pour consigne, tondez-le tôt et court.
Oui, très bien.
Oui, alors, tondez-le tôt et court.
Pendez-le haut et court.
Non, mais j'ai compris. Hein. Non, je cherchais si c'était Delbourgien ou joie ou pas. J'ai rarement dit, qu'est-ce que vous en pensez de ces calembours?
Je pense qu'Hervé Le Tellier est plus dans le vrai et même frôle d'un seul coup la découverte réelle de ce texte.
Ah oui.
Ah oui, il en est.
Le point d'orgue, c'est le calembour?
Oui, le point d'orgue, c'est le calembour, et c'est là que les mots qu'il utilise soudain évoquent absolument le texte dont je veux parler.
On aimerait bien entendre votre texte, Hervé, sans l'interrompre pour le savourer.
Oui, alors donc je vous rappelle le titre qui permet de justifier toute la suite. Oui. Donc c'est rien d'inoubliable. Elle se promenait seule sur la plage de Sète, une grande blonde, comme aurait dit Echnoz. Elle occupait plutôt bien son jean et son t-shirt vert. C'était du bois pour l'enfer. Sous le vent qui soufflait, ses cils se fermaient et la mer faisait des moutons, mais ceux-ci n'étaient pas comestibles. Mais elle, en revanche, ne l'était-elle pas tout à fait? Elle aurait pu s'appeler Marine ou Océane. Bonjour mademoiselle, vous marinez chez vos harengs?
Ah, c'est pas mal.
Ah, c'est un beau texte.
C'est un
beau texte. Hein.
Si vous vous en souvenez demain, écrivez-nous pour qu'on sache si le titre est justifié. Oui, hein, parce que vous êtes très pessimiste au fond, Hervé.
Ah oui, mélange de pessimisme et de réalisme parfois.
Oui. Eva Almassi.
Je me tâche très facilement. Notre promeneur solitaire eut ses fonds de pantalon sur les bancs publics, sans amoureuse à bes côtés. Peu malin, il n'a pas vu le panneau « Attention, peinture fraîche !» tandis que son derrière, qui lui appartient en propre, devient tout bleu. La pelouse verte, qui appartient à tous, absorbe sa vue et sa pensée inaliénable.
Bien.
Il est fichu. C'était dans la vaste nature son seul vêtement qui tombait impeccable. Foutu pour foutu, il tache sa chemise par la moutarde forte de Dijon, de son canapé, le pire cauchemar des teinturiers ou de la petite blanchisseuse qu'il poursuit de ses assiduités, vieux cochon, vieil anard, Gainsbourg ou Gainsbourg. Mais ce gazon coupé à ras, les jardiniers ont-ils pour consigne, tondez-le tôt et court?
Le texte d'Eva est beaucoup plus long.
Hein. Oui, c'est là qu'il y a peut-être un problème.
Ah oui, c'est ça.
Parce que j'avais indiqué Max Stirner, l'unique est sa propriété, parce que je voulais faire sonner cette chose de l'unique et de la propriété d'une chose unique.
Ah, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit aussi?
Et alors, il s'agit, vous voulez que je vous dise de quoi il s'agit?
Bien sûr. Oui,
il s'agit d'un texte de Alain Chevrier, tiré d'un recueil qui s'appelle Quack, qui a pour particularité d'être monosyllabique. Et donc, il n'y a que des poèmes avec une syllabe.
Oui.
Et celui sur lequel nous travaillons, qui faisait allusion à une œuvre d'Hervé Le Tellier, c'est Le Bar.
Ah,
les sonates de Bar.
Sorti des sonates de Bar.
Le Bar est quand même assez proche du hareng. C'est quand même.
Ce sont deux vertébrés
marins.
Ah, mais
on n'est pas loin.
C'est pour ça que j'ai souligné la pertinence de tes remarques.
Alors lisez-nous ce texte en justifiant quand même deux, trois de vos injonctions.
Oh bah, la première que vous avez très bien sentie sur Jean-Jacques Rousseau et Brassens, il vit dans la mer, en banc, puis tout seul.
Ah ben bah voilà, les bancs publics,
on a les bancs,
effectivement,
voilà.
Déva. Oui.
Il est long et gris. Alors, on va parler de Véronèse et de Klein. Son dos a des tons bleus ou verts.
Oui.
La phrase définitive, il est très beau. L'allusion à Laurent.
Oui.
Oui.
Mais voilà.
À Saint-Laurent.
Oui. Cuit sur le grill. Saint-Laurent, Saint-Laurent, oui. Saint-Laurent a été Saint-Laurent. Martyrisé sur un grill. Il a été mis sur un grill.
C'était pas le couturier du tout,
non,
ni
mais
Cécile Saint-Laurent.
Avant lui, il y en a eu un.
Oui, c'est ça. Mais ça, peu de gens le savent, non?
Donc voilà, il est cuit sur le grill, c'est l'inventeur du barbecue. Donc je pense, à la fleur de sel ou au thym, c'est un mets de choix. Hervé Le Tellier avait exprimé justement comment les moutons se goûtaient. Et avec la question, qui veut du rabe de bar? Il a deux noms, et c'est là les deux synonymes,
loup
et bar. Et là, le calembour en hommage à Patrice Delbourg qui se termine, c'est Loubar.
Lisez-nous ça vite fait sans interrompre.
Il vit dans la mer en banc, puis tout seul. Il est long et gris. Son dos a des tons bleus ou verts. Il est très beau. Cuit sur le grill, à la fleur de sel ou de thym, c'est un mets de choix. Qui veut du rabe de bar? Il a deux noms, loup et bar. Loubar?
C'est joli, c'est très joli. Évidemment, vous avez pensé femme, homme, alors qu'il s'agissait bien d'un animal, comme je le soupçonnais.
Ah, là, là.
Mais oui. Mais quand même, ils ont écrit deux très... Enfin, peut-être pas inoubliables pour celui d'Hervé, quoique...
Non, moi je ne dirais
jamais. De très jolis textes.
Avec le mien, je préfère l'oublier.
Si ça se trouve, il ne restera que ça,
finalement.
De toi.
On ne sait jamais ce qui se passe dans la vie.
Sait-on jamais ce qui se passe.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Tressard avec Anne de Pelchin et Claude Niort. À retrouver sur franceculture.fr pour le téléchargement pendant 1000 jours. Et la réécoute à la page des papous, page sur laquelle vous pouvez glisser vos réflexions, remarques, suggestions, rubrique commentaires. Et puis, baladez-vous dans nos pages Vie du Club et les livres des papous pour découvrir les spectacles, expos et nouvelles publications des membres de notre petite bande. Au revoir. Je vous laisse en compagnie d'Antoine Perroux. Il est presque l'heure de Tire ta langue. Passez un très bel après-midi sur France Culture.